Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Il était le poète de la résistance palestinienne. À l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Mahmoud Darwish, l'Institut du monde arabe lui rend hommage dans un festival pluridisciplinaire du 19 au 23 septembre. Théâtre, lecture de poèmes, installations visuelles, concerts et performances musicales se succéderont avec, en ouverture, la diffusion du documentaire Mahmoud Darwish et la terre comme la langue de Simone Bitton. Simone Bitton que nous recevons dans un instant. En seconde partie d'émission, nous lirons la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. On le surnommait le poète de la Palestine ou encore le poète de la résistance. Mahmoud Darwish, né en 1941, mort en 2008, fut avant tout une plume. L'un des plus grands poètes contemporains de langue arabe, il est d'ailleurs l'un des plus traduits. L'Institut du monde arabe à Paris lui rend donc hommage avec ce festival qui propose de la musique, du cinéma, des témoignages, des lectures et piochages poétiques, des performances théâtrales, une exposition, une installation vidéo et on pourra voir ou revoir à cette occasion un documentaire « Mahmoud Darwish et la terre comme la langue », dont nous accueillons la réalisatrice Simone Bitton. Bonjour.
Bonjour Éric Bataillon.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, voici 20 ans, de tourner ce documentaire sur le poète palestinien ?
Envie, le mot est faible. C'était pour moi une occasion extraordinaire. Je serai toujours reconnaissante à Mahmoud de m'avoir fait confiance, parce qu'il détestait les caméras. Et c'était le plus grand poète arabe vivant et le service public à l'époque avait lancé une série documentaire très ambitieuse, comme il n'y en a plus aujourd'hui malheureusement, qui était sur tous les écrivains du XXe siècle, avec une centaine de films, même un peu plus. C'était une collection qui était dirigée par Bernard Rapp. Et puis on m'a confié le film sur Darwish.
C'était quelqu'un de pudique, qui n'aimait pas être en avant.
C'est peu dire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un comme beaucoup de grands écrivains qui avaient besoin de solitude. Et puis qui, du fait de sa grande, immense notoriété qu'on peut pas s'imaginer, pour un poète dans le monde occidental, un poète, même quand il est célèbre, peu de gens connaissent son visage ou le timbre de sa voix. Mais Darwish, comme les grands poètes du monde arabe, donnait des récitals partout, parce que c'est de la poésie, c'est un art vivant, et c'était comme une rockstar, quoi. Je veux dire, il ne pouvait pas marcher dans une rue de n'importe quel pays arabe sans être assailli par des fans, entre guillemets. Alors heureusement c'était pas encore la période des selfies, mais sinon je sais pas ce qu'il aurait fait, parce qu'en plus c'est vrai qu'il détestait être filmé, il détestait être photographié. Donc c'était une grande c'est pas que j'ai eu l'idée, c'était que j'en rêvais. Voilà.
Selon vous, est-ce que Mahmoud Darwish a été marqué par l'exil forcé dès son plus jeune âge?
Évidemment.
Lorsqu'il a dû quitter la Palestine pour aller à Beyrouth, je crois, au Liban.
Évidemment, l'exil personnel et collectif des Palestiniens est vraiment à la source de tout son travail et de, je dirais même plus, de son identité d'être humain. Il n'a cessé d'écrire cet exil et de l'écrire si bien qu'il est devenu, à mon sens, et au sens de beaucoup de ses lecteurs, le poète de l'exil universel. Je pense, et je sais d'ailleurs, parce qu'on me le dit souvent, que n'importe quel exilé, n'importe quel migrant, et Dieu sait si nous sommes dans une période de migration forcée, il est son poète. Il a fait de l'exil, il a offert l'exil et l'exode palestinien aux réfugiés et aux exilés du monde entier.
L'exil, mais aussi le retour clandestin, parce que la famille Darwish revient s'installer en terre israélienne, donc de façon...
En terre palestinienne, devenue israélienne après 1948.
Cela aussi, ça le marque, cette façon d'être anonyme, pas avec sa véritable
On appelait ces gens-là des infiltrateurs, alors qu'ils ne faisaient que rentrer chez eux, dont ils avaient été chassés quelques semaines ou quelques mois auparavant, et beaucoup étaient tués en essayant de passer la frontière. Oui, sa famille, après avoir été chassée et son village natal rasé, est revenu et s'est installé dans un autre village, proche du village perdu, puis encore dans un autre. En fait, il a été nomade dès l'âge de 7 ans. Il n'a connu que ça, que le déplacement. Et d'ailleurs, c'était pas facile de faire un film sur lui aussi pour ça, parce que c'était un homme qui était constamment en voyage, constamment. Mais alors, vraiment, je pense pas qu'il passait à l'époque jamais plus de 10 jours au même endroit.
Mahmoud Darwish se fait d'abord connaître par des articles de presse qui lui valent de visiter très tôt les prisons israéliennes, car il est membre du Parti communiste israélien. À l'époque, il y en a un, comme il y en avait d'ailleurs en Irak.
Qui était le seul parti. Je ne sais pas si Mahmoud était vraiment très très communiste au sens de la doctrine marxiste. C'était certes un homme de progrès, mais le Parti communiste israélien était le seul où des citoyens palestiniens, des citoyens arabes trouvaient leur place. C'était le seul qui acceptait des Arabes.
En tout cas, c'était un parti et en tout cas un engagement pour lui à la fois laïque et radical.
Oui.
Laïque, c'est important. Pour ce combat palestinien particulier.
Mahmoud était à la fois laïque, oui, on peut employer ce terme, je ne pense pas qu'il ait été très croyant, mais en même temps, il était profondément habité par l'histoire de la Palestine, qui est une histoire de mythes et de croyances religieuses. C'est-à-dire, dans l'œuvre de Mahmoud, il appelle constamment au chevet de sa poésie les poètes, les saints, Moïse, Aaron, Jésus, Mahomet, tout le monde est là. Toute sa poésie bruisse de l'histoire ancienne de la Palestine, qui est celle du monothéisme. Et pas seulement, parce qu'il a aussi, il appelle aussi des déesses d'avant le monothéisme, de la jahiliya, d'avant l'islam. Il est complètement dans une culture qui est aux sources des religions monothéistes.
Il y a donc une correspondance très forte entre ses écrits de poète et son engagement politique et en tout cas social. C'est un tout.
C'est un tout, mais c'est quand même la poésie qui prime. C'est toujours la poésie qui prime. Il n'a pas écrit que l'histoire, il n'a pas écrit que la souffrance collective, il a beaucoup écrit l'amour, c'est un grand poète de l'amour. Il a écrit la mer, il a écrit la beauté du monde, la nature. C'est vraiment un très très grand poète, Mahmoud Darwish.
Alors 1988, l'un de ses poèmes, en traversant les mots passants, alors quitter notre terre, nos rivages, notre mer, notre blé, notre sel, notre blessure. Ce poème est discuté à la Knesset, et là, on l'accuse de souhaiter voir partir les Juifs d'Israël. Était-ce ce qu'il voulait vraiment, selon vous ?
C'est un procès tellement ridicule que je ne sais pas vraiment quoi en dire. Mahmoud Darwish était vraiment un modèle d'humanisme, mais de dignité. Il avait, tout son être adhérait à la lutte de son peuple pour le retour, pour la dignité, pour la liberté, contre l'occupation, voilà. Et ça s'exprimait bien évidemment dans ses poèmes. Mais c'est pas Darwish qui aurait appelé quiconque à être jeté à la mer. Par contre, il rappelait sans cesse que les Palestiniens, eux, avaient été jetés à la mer.
Et qu'ils méritaient de conserver une terre, notamment à Cisjordanie et Gaza. C'est ce qu'il disait.
Fallait qu'ils rentrent chez eux, que leur droit, il le faut toujours d'ailleurs, que le droit à l'existence, que le droit à leur identité, que le droit à être chez eux soit reconnu. Il est reconnu d'ailleurs par la loi internationale, mais il n'est pas appliqué.
Justement, on marquait cette semaine le 25e anniversaire des accords d'Oslo. C'était jeudi, je crois. On a entendu sur notre antenne le désenchantement des Palestiniens qui sont de moins en moins adeptes de la solution à deux États. Dans ce contexte, pour quelles raisons devrions-nous nous souvenir de Mahmoud Darwish ?
On doit se souvenir de Mahmoud Darwish de toute manière parce qu'il est là, parce que il est toujours le plus grand poète arabe contemporain. Et ses mots sont connus, ses mots sont dits, ses mots sont répétés. On ne peut pas ne pas se souvenir de lui. Ça, c'est la première raison. Que ce soit dans le contexte des accords d'Oslo, oui ou non, des diverses solutions, c'est pas ça qui compte. Maintenant, je veux pas non plus éviter votre question, mais je ne peux pas parler à sa place. Mahmoud a été très critique des accord d'Oslo dès le départ, tout en accompagnant le mouvement. Il a été très critique parce qu'il disait « Moi, je suis un homme de texte et ce texte est mauvais. » Et il avait raison. Ce texte avait des trous tellement béants de choses tellement importantes que ça nous est tous retombé sur la figure après. Ils ont échoué, mais leur échec était inscrit dans le texte. Et les accords d'Oslo, je me rappelle, c'était un gros paquet de je ne sais combien de centaines de pages, hein. Et je crois qu'il était une des seules personnes à les avoir lus en entier. Parce que tout le monde en parlait ou s'est tripé autour des accords d'Oslo sans les avoir lus. Lui, il les avait lus, analysés, et il en avait conclu qu'ils avaient très peu de chances d'aboutir à une solution juste, en particulier parce que la question des implantations israéliennes était traitée très à la légère, mais beaucoup de choses, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes dans les accords d'Oslo. Et puis voilà, donc ils ont échoué, mais maintenant l'histoire continue. Il faudra bien un jour que quelque chose se passe qui soit de l'ordre de la réparation historique, et puis surtout de permettre aux Palestiniens de vivre une vie décente. Il y a des millions de Palestiniens aujourd'hui qui sont toujours dans des camps, qui sont assiégés, qui sont vraiment martyrisés par ce qu'il se passe dans la région.
Finalement, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en Israël-Palestine, les vers des écrits de Mahmoud Darwish n'ont, semble-t-il, pas changé le cours de l'histoire. Est-ce que, selon vous, le poète a perdu ?
Il parlait beaucoup de la défaite. Et toujours pour dire qu'il avait du mal, malgré l'évidence politique dont vous parlez, à se considérer comme un vaincu. Il se considérait, et c'est merveilleux la manière dont il expliquait ça, et il l'explique dans mon film, comme un poète troyen, c'est-à-dire comme le poète qui donne la parole, qui dit la parole de ceux qui sont vaincus par l'histoire, mais qui donne la parole juste, qui donne leur version de l'histoire. Et donc il n'était pas vaincu, et sa poésie, en tout cas, elle est un triomphe.
Merci Simone Bitton.
Merci à vous.
Réalisatrice du documentaire Mahmoud Darwish et La Terre comme la langue, c'est à voir ou revoir mercredi prochain si vous êtes à Paris à l'Institut du Monde Arabe.
Orient Hebdo sur RFI.
بين ردة وعيوني بندقية والذي يعرف ردة ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية.
Rita, un poème de Mahmoud Darwish, chanté et mis en musique par Marcel Khalife.
وأنا قبلت ريتا عندما كانت صغيرة وأنا أذكر كيف التصقت بي وغطت سعيدي أحلى ضفيرة وأنا أذكر ريتا مثلما يذكر عصفور غديرة
Nous allons maintenant lire la presse de la semaine au Caire avec Alexandre Boutianti. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Et à Jérusalem avec Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour.
Une édition marquée cette semaine par le 25e anniversaire de la signature des accords d'Oslo et beaucoup de commentaires dans vos journaux, Michel.
Plusieurs journaux consacrent de véritables dossiers à cet anniversaire. C'est le cas notamment du quotidien libéral à Haaretz avec ce commentaire de la journaliste Amira Haas. En fait, depuis le début, personne ne songeait véritablement à se diriger vers la paix, dit-elle. Autre titre révélateur à retenir sur le même sujet, les accords d'Oslo sont morts. Est-ce que l'OLP est sur la même voie ? Un autre commentateur fait remarquer que les accords ne parlaient pas de la création d'un État palestinien. Autre grand absent de la déclaration de principe, le mot « occupation ». Eric, toujours dans Haaretz, sur une page, un résumé de toutes les ententes des différents contacts israélo-palestiniens rangés par catégorie, les accords d'Oslo, mais aussi 11 autres négociations, une page qui mérite d'être conservée soigneusement dans des archives personnelles. Et puis aussi une photo qui montre le slogan des détracteurs des accords et qui prône de déférer en justice ceux qui sont qualifiés de criminels d'Oslo. Une référence aux nombreuses victimes de la vague d'attentats qui a fait suite à la signature des accords. Et dans la presse également cette question de Yossi Beilin, un des architectes des accords d'Oslo, puisque le gouvernement israélien estime qu'il s'agit d'une grave erreur. Alors pourquoi ces accords n'ont pas été purement et simplement abrogés ?
Oui, ces accords d'Oslo, ainsi que la fermeture des bureaux de la délégation palestinienne à Washington, font également couler beaucoup d'encre dans la presse arabe, Alexandre.
L'administration Trump nous a demandé de choisir entre perdre notre délégation aux États-Unis ou perdre nos droits. Nous avons choisi de défendre nos droits, a déclaré le chef de la représentation palestinienne à Washington, rapporte la presse arabe. Il a estimé que l'ultimatum américain était d'autant plus regrettable qu'il intervenait au moment où était célébré le 25e anniversaire des accords d'Oslo entre Palestiniens et Israéliens. L'occasion pour de nombreux éditorialistes de commenter ces accords et d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas fonctionné. La raison principale invoquée est le non-respect des accords par les Israéliens après l'assassinat du premier ministre signataire de ces accords, Yitzhak Rabin. Mais le parti pris américain en faveur d'Israël et l'inaction européenne sont aussi pointés du doigt.
Alexandre, plusieurs journaux arabes commentent la reconnaissance par le président français Emmanuel Macron de la torture en Algérie.
Oui, la décision du président Macron de reconnaître la torture en Algérie est saluée par les journaux arabes qui la qualifient de courageuse, mais soulignent aussi que ce n'est que justice et que cette reconnaissance n'a que trop tardé. Les journaux reprennent les déclarations du ministre algérien des Moudjahidines, les anciens combattants contre l'occupation, selon lequel nul ne peut nier les crimes commis par l'occupation française. Les commentateurs indiquent que l'Algérie souhaite que la France aille plus loin dans son mea culpa en déclarant que les crimes commis en Algérie relèvent du génocide, une demande rejetée par les partis politiques français dont certains critiquent même la décision de Macron de reconnaître la torture, indiquent les journaux arabes.
Le chef de la police israélienne ne sera pas reconduit dans ses fonctions pour une quatrième année. C'est à la une des éditions du week-end de la presse en Israël. Explication, Michel Paul.
En soi, Eric, ce n'est peut-être pas une information de première importance, mais ce qui est intéressant, ce sont les explications que l'on trouve dans la presse. Alors figurez-vous que Roni Alsher, un ancien des services secrets qui avait été nommé il y a 3 ans par Netanyahou, est évincé de la tête de la police, selon les commentateurs, bien sûr, parce qu'il n'a pas suffisamment freiné les enquêtes menées contre le premier ministre israélien. Un canard boiteux, titre Israel Hayom, le journal proche du pouvoir en Israël. Bien sûr, reste à savoir ce que le successeur d'Alsher fera avec le résultat des enquêtes pour corruption de Benjamin Netanyahou et de son épouse Sarah, à suivre donc.
En bref, encore, Michel, vous retenez 2 autres informations.
Tel Aviv sera l'hôte du concours international de l'Eurovision et non pas Jérusalem. Déception selon la presse au sein de la droite israélienne qui voulait faire de cet événement un grand happening politique autour de la ville sainte. Et toujours selon les journaux, savez-vous pourquoi c'est finalement la métropole israélienne qui a été sélectionnée? Tout simplement parce que Tel Aviv autorise les répétitions le jour du Shabbat, ce qui n'est pas le cas de Jérusalem. Et puis aussi cette petite annonce que l'on trouve dans les journaux israéliens et qui pourrait vous intéresser, Eric, le Mossad, le service secret israélien, recherche un expert en communication doué pour l'écriture journalistique et spécialiste des médias sociaux. Ce n'est pas la première fois. Le Mossad avait déjà cherché de cette façon des ébénistes, des spécialistes du cuir, des comptables et aussi un expert en impression en 3 dimensions.
Alexandre, la presse arabe réagit au décès du chanteur Rachid Taha.
Oui, et de nombreux éloges de la part du milieu musical arabe, mais aussi de simples fans, surtout dans les pays du Maghreb. Rachid Taha est considéré par les critiques comme un des principaux innovateurs musicaux par le biais du raï et du shaabi auxquels il a donné leurs lettres de noblesse. Au Mashrek, Égypte, Levant, péninsule arabique, on connaît surtout Rachid Taha à travers 2 de ses chansons, Ya Rayah et surtout Abdelkader.
Et on peut citer encore 2 reprises, Douce France ou encore Rock El Kasbah. Merci Alexandre, merci Michel. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Demain, nous parlerons du documentaire interdit, celui de la chaîne Al Jazeera, consacré au groupe de pression pro-Israël aux États-Unis. Mais tout de suite, un nouveau journal d'information.